Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce que le tempo ? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 25 décembre 2021, autrement dit le jour de Noël que je vous souhaite le plus joyeux du monde. Avec la belle équipe de Science en question, Thierry Beauchamp et Luc-Jean Reynaud qui m'accompagnent chaque samedi, et avec la complicité de Jacques Azubert qui s'occupe du son pour nous aujourd'hui, nous avons voulu vous faire un cadeau radiophonique. Une idée s'est aussitôt imposée à nous, vous faire entendre Geneviève Laurenceau de deux façons différentes. D'une part par sa voix, elle va nous parler, d'autre part par son violon, elle va en jouer, dans le but d'illustrer d'une façon doublement et magnifiquement sonore le concept de tempo en musique. Vous me direz peut-être en forme de reproche que ce n'est pas de la science. Mais je vous répondrai que si, puisque la notion subtile de tempo surgit à la belle croisée de l'art et de la science, en l'occurrence de la mesure, ainsi que nous allons le voir, ou plutôt l'entendre. Bonjour Geneviève Laurenceau.
Bonjour Étienne.
Joyeux Noël à vous.
À vous aussi et à tous les auditeurs.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette édition exceptionnelle de Science en question. Vous êtes venu avec votre violon. Vous en jouez depuis l'âge de 3 ans. Et vous avez commencé à jouer avec l'orchestre de chambre philharmonique de Strasbourg, votre ville natale, dès l'âge de 9 ans. C'était tout récemment.
C'était avant-hier.
Vous avez joué en soliste sous la direction de très grands chefs d'orchestre. Et de 2007 à 2017, vous avez été premier violon super soliste de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Vous enseignez, vous encadrez des masterclass, vous êtes lauréate de nombreux prix, vous êtes présidente et directrice artistique du Festival de Musique de Chambre d'Aubernais, que vous avez créé en 2009. En un mot comme en 100 000, vous êtes la femme de la situation. J'ai une première question, Geneviève Laurenceau. Que veut dire super soliste ?
Alors, super soliste, c'est le terme approprié pour décrire le premier violon de l'orchestre. Vous savez, celui qui s'assied tout devant, dans la première place des violonistes, et qui est juste en face du chef d'orchestre. Et c'est le violoniste aussi, le ou la d'ailleurs, hein, qui donne le la, qui prend le la du oboïste d'ailleurs, plus exactement, qui aussi, d'un point de vue... plutôt dans les coulisses, donne des coups d'archer, des indications à son pupitre. Ça fonctionne un petit peu comme une petite armée, l'orchestre. Et donc tout ça est discuté en amont, et c'est aussi une personne qui peut avoir un rôle même diplomatique quand arrivent quelques tensions entre le chef d'orchestre et les musiciens.
Mais en coulisses seulement.
En coulisses seulement.
Alors vous êtes venu avec votre violon parce que vous allez illustrer ce concept de tempo par des exemples que vous avez choisis, que je connais à peine. Et le premier, je crois que c'est un morceau qui a été écrit par Carole Beffa, qui s'intitule « Supplique ».
Oui.
Alors pourquoi vous l'avez choisi et est-ce que vous avez des choses à en dire avant de l'exécuter pour ce qui est de son tempo ?
Alors, je l'ai choisi justement parce que c'est un morceau qui n'a aucune indication de tempo. Et j'avais envie de parler de ce morceau et de le jouer en essayant de savoir déjà ce que c'était le tempo. Qu'est-ce qu'on pouvait dire du tempo? Quelle était sa définition? Et aussi, éventuellement, comment trouver le bon tempo quand, justement, le compositeur ne laisse aucune indication? Là, il se trouve en plus que Carole Beffa m'a écrit cette pièce en 2003, donc c'était une création. Donc je pouvais pas non plus écouter le morceau joué par quelqu'un d'autre.
Et donc vous étiez libre?
Donc j'étais libre, mais pas tant que ça finalement, puisque même sans indication de tempo, la seule chose qui l'est marquée au début de la pièce, c'était souple rythmiquement. Donc là, c'était doublement libre. Et ce qui était amusant, c'est que pour moi, il n'y a qu'un seul bon tempo, et que je l'ai trouvé grâce à cette indication, souple rythmiquement, donc c'est une indication de liberté en effet. Le titre de la pièce qui s'appelle « Supplique » et qui donc augurait plutôt d'un morceau assez lent, assez méditatif, peut-être suppliant même. Et donc j'avais pas envie de le jouer à toute berzingue. Et puis, c'était ensuite, même visuellement, quand on voit la partition, on voit que c'est écrit en valeur longue. Donc, on se dit que ce sera un morceau qui sera, qui se doit d'être, de faire entendre chacune de ces notes. Voilà. Après, il y a la pratique. Il y a le fait de la jouer, de la rejouer, jouer encore. Qui fait que j'ai finalement, malgré la grande liberté d'indication, le morceau dure à peu près toujours la même, pratiquement toujours la même durée.
Ben, nous allons la compter. Je vous laisse vous installer derrière le pupitre. Nous sommes dans le studio 551 qui a été choisi pour sa très bonne acoustique. Geneviève Laurenceau, supplique de Carole Beffa.
Thank you.
Merci Geneviève Laurenceau. Je précise pour les auditeurs que nous sommes sur France Culture et non pas sur France Musique. Nous écoutons Science en question. Vous venez d'interpréter Supplique de Carole Beffa, partition sur laquelle le tempo n'est pas indiqué.
Exactement.
Et j'ai trouvé quelque part cette remarque de Mozart qui est bien connue. Je parle de la remarque, hein. Enfin, pas de Mozart, qui est lui ultra connu, qui disait le plus nécessaire et le plus difficile et le plus essentiel dans la musique, c'est le tempo. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ouais. Pourquoi est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est? Je savais pas qu'il avait dit ça.
Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Et pourquoi est-ce que c'est essentiel?
Alors, ce qui est magnifique là, c'est que c'est un compositeur qui dit à quel point l'interprétation est importante, puisque c'est pas le compositeur qui va trouver le bon tempo, c'est l'interprète. Le compositeur va imaginer sa pièce et ensuite à l'interprète de la recréer avec beaucoup de paramètres qui peuvent changer d'ailleurs. Ici, on est dans un studio qui, même s'il est assez grand, est très mat. Donc je vais m'adapter aussi en fonction de l'acoustique de la pièce, de son hygrométrie, si je joue seul ou à plusieurs. Mais en tout cas, pour répondre...
Vous voulez dire que le tempo dépend du contexte?
Le tempo dépend aussi du contexte, c'est-à-dire qu'il faut prendre le contexte en compte pour... il faut sans cesse s'adapter. En fait, c'est pas le tout chez soi d'avoir trouvé un tempo idéal. On s'adaptera toujours au lieu dans lequel on est, parfois même aux gens pour qui on joue. Ça peut aussi arriver. Mais il est vrai que je crois aussi que tant qu'on n'a pas trouvé un tempo juste pour une pièce, on n'a pas recréé le lien très fort de l'interprète avec le compositeur. C'est une sorte de d'accord tacite entre l'interprète et le compositeur qui peut d'ailleurs se changer en fonction
les,
de...
Les compositeurs n'ont pas toujours indiqué le tempo qu'ils souhaitaient.
Non, alors avec l'arrivée du métronome, ils l'ont souvent indiqué.
16e siècle, 17e?
Le métronome, c'était au tout début du 19e. Au tout début du 17e siècle sont apparus les termes musicaux. Par exemple, adagio, andante, lento ou allegro, tout ça c'était des indications plutôt de caractère de la pièce. Et on se fiait apparemment beaucoup au pouls humain. Pour indiquer une notion de pulsation. Oui, on parle
60,
de pulsation.
70 par minute.
Donc évidemment, il ne faut pas prendre son pouls quand on vient de jouer la supplique de Carole Beffa parce que ça risque d'être très, très rapide. Mais oui, avec l'apparition du métronome, il y a eu quelque chose d'assez pragmatique. Le compositeur a laissé en quelque sorte son idée, une idée de pulsation pour sa pièce. Alors il y a quelques exemples de compositeurs où on disait mais son métronome ne marche pas, ça peut pas marcher à ce tempo-là. Parfois les compositeurs n'entendaient pas la pièce là leur créée, donc ils ne pouvaient pas avoir une notion vraiment concrète de la pulsation idéale pour leur pièce. Mais je suis d'accord que en premier lieu c'est le tempo. C'est vraiment l'essence de l'interprétation.
Mais est-ce qu'on sait si une pièce de Bach qui est jouée aujourd'hui, par exemple, l'est avec le même tempo qu'à l'époque de Bach?
Non, on peut pas le savoir. En plus, ça va varier d'un interprète à l'autre, en fonction de lui aussi, de son pouls à lui et de son tempérament. Ce qui est sûr, c'est que l'interprétation des œuvres de Bach a beaucoup varié par les époques. Si on prend les interprétations des années 60, 70, elles étaient bien plus pompeuses, elles étaient vraiment héritées...
Du siècle passé.
Du siècle passé, oui. Oui, pas le 2060. Du siècle passé. Et donc, c'était joué très romantique et très lent. Avec toute l'arrivée des ensembles baroques et toutes les recherches des musiciens baroques, on s'est rendu compte que la façon d'aborder cette musique était bien plus articulée, bien plus vive et légère voilà, qu'en passant à travers le romantisme.
Alors je crois que vous avez l'intention, le projet de jouer l'adagio de la première sonate de Bach. Quel exemple de tempo nous donne-t-elle?
Alors cet adagio, ça veut dire « à l'aise ». Et ça me semblait intéressant ici de la jouer parce que c'est une pièce écrite, mais qui se veut un peu improvisée. Donc c'est un mélange entre écriture, mais ça devrait sonner comme une improvisation. Et donc ça inclut là aussi, ça induit beaucoup de liberté dans le tempo. Et on doit, en tant qu'interprète, on devrait donner l'impression d'une création sur le moment, comme si la source jaillissait au moment où on l'a jouée, et pas comme si c'était vraiment une musique.
Ça veut dire que vous ne la jouez pas toujours de la même façon ?
C'est-à-dire qu'il ne faut pas la jouer toujours de la même façon, et ça n'influe pas sur le tempo, la pulsation de base de la pièce.
Alors je vous laisse vous installer, vous allez la jouer comme jamais vous ne l'avez jouée.
Thank you.
Merci Geneviève Laurenceau. Nous sommes sur France Culture, à l'écoute de Science en Question, où nous illustrons grâce à vous et à votre violon la notion de tempo en musique. Vous venez d'interpréter l'adagio de la première sonate de Bach. Adagio, vous l'avez rappelé, ça veut dire à l'aise. Vous avez l'air très très à l'aise.
Ah, j'ai le fait de l'exprimer avec des mots et d'exprimer le fait de, que ce soit une improvisation, j'avoue que c'était une source d'inspiration aussi pour moi.
Alors, vous avez choisi aussi d'illustrer cette notion de tempo en prenant des œuvres plus récentes, notamment une de Benjamin Atayer, qui est un compositeur contemporain, je crois, qui a écrit une pièce qui s'appelle La Voix Nue, comme le titre d'une émission célèbre de France Culture.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qu'il a, ce tempo? Parlez-en avant qu'on l'entende.
Alors, là, j'avais envie d'aborder la question... Est-ce que le tempo a changé au fil du temps? Est-ce qu'il a évolué?
Moi, j'ai compris que c'était une notion relative.
C'est une notion relative et qui a évolué aussi en fonction de la technique des instruments. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé d'archet pour jouer l'adagio de Bach.
Vous en avez deux, mais ils se ressemblent beaucoup, vu de loin.
Alors, ils se ressemblent beaucoup, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup plus long. Ça, c'est avec une tête plus carrée. Et celui-ci, l'archet, cet archet plus long et l'archet moderne, celui-là, c'est un archet baroque, avec une tête beaucoup plus effilée. Et c'est un archet plus court. Et c'est donc l'archet qui était utilisé à l'époque de Bach. Et tout ça pour illustrer aussi le. Alors, c'est un archet qui est beaucoup plus assez dense, très agile, qui est vraiment fait pour ciseler l'articulation des pièces. Et au fur et à mesure du temps, l'archet s'est développé vers un archet plus long, plus lourd à la pointe, et qui a pu soutenir le son davantage. Donc ça a transformé aussi la ligne musicale, une certaine pesanteur aussi, un certain volume sonore. Et ça a aussi joué quelque part sur les indications de tempo des compositeurs.
Ça veut dire que quand vous changez vous-même d'archet, vous ne jouez pas selon le même tempo?
Je ne peux pas garder le son aussi longtemps avec un archet baroque qu'avec un archet moderne. Je ne peux pas garder un son aussi longtemps. Donc, étant donné que j'essaye quand même d'être au plus proche de la d'une articulation d'une voix humaine, je suis obligée de suivre l'inflexion de mon archet. Et en effet, je suis obligée aussi de prendre des tempos un peu plus rapides sur cet adagio-là, plus rapide qu'un adagio de l'époque romantique.
D'accord.
Je pourrais vous faire un petit exemple d'ailleurs je vais le faire tout de suite.
De la différence.
Ici, la différence entre un coup d'archet avec le baroque. Ça, donc j'ai utilisé tout l'archet. Et ici, c'est l'archet moderne.
Qui est plus long.
J'ai beaucoup plus de marge, beaucoup plus de largeur. Et ce qui change la ligne musicale et quelque part ce qui distend un peu le tempo.
Alors écoutons cette pièce de Benjamin Atayer à voix nue. Et là, vous allez vous déplacer derrière le pupitre.
Thank you.
Merci et bravo, Geneviève Laurenceau. Vous venez de jouer donc à voix nue de Benjamin Attahir. Et en vous regardant jouer, il y a une question qui m'est venue. Vous avez des mouvements du corps qui sont assez amples, dont la vitesse dépend de ce que vous êtes en train de jouer. Donc est-ce que c'est le tempo qui détermine les mouvements de votre corps ou est-ce qu'au contraire, c'est les mouvements qui marquent le tempo? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est inconscient?
Je sais que je bouge toujours quand je joue. Une forme de danse qui en effet a toujours est quand même toujours en rapport avec ce que je joue. Je sais pas si ça part de moi, c'est-à-dire d'une impulsion, comme si j'étais un peu mon chef d'orchestre. Je pense que ça doit être ça, c'est-à-dire que je sens ce tempo, cette pulsation de manière interne très fortement, et je tourne autour d'elle, même physiquement.
Et tout à l'heure, vous avez parlé de tempo juste.
Oui.
Il y a un tempo juste, même quand le compositeur n'a pas donné de directives très précises. Vous l'avez dit à propos de la pièce écrite pour vous par Carole Beffa. Mais est-ce que tout le monde est d'accord sur cette idée de tempo juste? Et si ça n'est pas le cas, dans un orchestre par exemple, qui est-ce qui fixe le tempo qui est retenu finalement? C'est le chef d'orchestre? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que vous parlez entre vous du tempo adéquat?
Oui. Oui, tout à fait. Alors, quand on est tout seul, comme ici, c'est un dialogue avec entre moi et moi. et d'ailleurs, j'aime beaucoup m'enregistrer parce que parfois, je ne me rends pas compte moi-même
du tempo.
que je suis trop lente par rapport à mon idée de la pièce. Donc, j'ai besoin quelque part d'être moi-même, d'avoir une vision extérieure du tempo. Alors, dans les orchestres, c'est assez simple. En effet, c'est le chef d'orchestre qui met tout le monde d'accord. Et il faut bien qu'il serve à certaines choses. Et donc ça, c'est vraiment
Les musiciens marchent à la baguette.
Exactement. Et ce qui est assez fascinant quand même, c'est que encore plus que tous les gestes qu'il pourra faire, c'est vraiment sa sensation, son ressenti du tempo qui sera partagé et qui sera ressenti également par l'orchestre. C'est une question très intéressante aussi quand on joue à plusieurs, mais quand il n'y a pas de chef d'orchestre, c'est-à-dire quand on est 2, 3, 4, 5, quand on fait de la musique de chambre donc ensemble et qu'on répète, comment est-ce qu'on trouve un tempo qui concorde, qui met tout le monde d'accord? Parce que en effet, c'est vraiment quelque chose de plutôt personnel et on peut dire que chacun a une sorte de tempo idéal en soi.
Alors comment vous faites?
C'est vraiment pour ça qu'on répète aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte de compromis de toutes ces personnes et du respiration commune qui est trouvée au bout de quelques heures de répétition parfois.
C'est un ajustement qui passe par le regard ou par l'audition?
C'est comme souvent en musique, c'est beaucoup de choses en même temps. Il y a aussi quelque chose de physique, c'est-à-dire c'est aussi par les gestes que ça se transmet. Là aussi, je trouvais ça assez fascinant quand j'ai réfléchi à la question de me dire à quel point on est en même temps dans le passé, dans le futur et dans le présent quand on joue. C'est-à-dire que vraiment, quand je suis en train de réaliser mon morceau, je suis dans le mouvement dans la réalisation de ces gestes très précis, donc dans l'instant précis, avec une grande présence. Je suis aussi en train d'anticiper les mesures qui vont suivre, surtout quand c'est un tempo très rapide. Il faut vraiment être sans arrêt dans l'anticipation. Et je suis aussi dans la réaction par rapport à ce que je viens d'entendre. Il y a toujours des choses à rectifier. Des notes qui, au violon, il y a vraiment, c'est une corde frottée, donc les sons viennent de manière parfois un peu aléatoire. Donc c'est là qu'intervient beaucoup la question d'acoustique. Et puis il y a toujours une sorte de regard extérieur aussi, un peu comme un chef d'orchestre qui chapeaute tout ça et qui le coordonne.
Est-ce qu'il y a un tempo limite, c'est-à-dire une vitesse que vous ne pouvez pas dépasser, soit pour des raisons liées à votre main qui peut pas suivre, soit liées à l'instrument?
Oui, c'est-à-dire quand
et ça dépend des instruments, j'imagine.
Oui. Et on ne parle pas seulement du violon dans l'ensemble, on parle aussi de la différence des violons, d'un violon par rapport à un autre.
Vous avez combien de violons, si ce n'est pas indiscret?
Moi, j'en ai deux. J'ai un violon, c'est un petit peu ce que j'aime d'ailleurs. J'ai un violon très contemporain qui date de 2017, qui est de Charles Coquet, d'un luthier français. Et ce violon-là, qui est un Kappa et qui date de 1700. Donc j'ai vraiment aussi ces deux couleurs et ces deux expressions, même très très différentes. Mais c'est vrai que quand un instrument n'est pas d'une puissance phénoménale, alors ça peut être un violon qui est très beau, mais qui n'est pas très puissant, il ne pourra pas tenir un tempo très lent avec une grande puissance. Il ne pourra pas le tenir de la même façon qu'un instrument lui-même qui pourra tenir une grande... qui a lui-même un coffre généreux.
Le temps passe, hélas, s'il faut jouer un nouveau morceau, lequel avez-vous choisi?
Alors, mais je ne sais pas, je regarde mes notes parce que je suis un peu perdue. Non, je sais très bien ce que j'ai choisi. C'est le Caprice polonais de Grażyna Bachewicz. Une femme, enfin.
Enfin. Thank you. Merci. Vous écoutez France Culture sans question. Nous essayons d'illustrer cette idée de tempo grâce à vous, Geneviève Laurenceau, qui venait d'exécuter Caprice polonais de Grażyna Bacewicz. Oui. Alors, on a l'impression que... Enfin, il y a quelque temps, nous avons reçu ici Francis Wolff. Mm-hmm. Il nous a parlé de philosophie, mais il avait écrit, il y a quelques années, un livre intitulé « Pourquoi la musique ?» mm-hmm. dans lequel il disait que la musique est une suite de sons qui internalise l'idée de sa cause. Il a l'impression que la cause de chaque note qu'on entend, c'est la note précédente. Mm-hmm. Et la note qu'on entend est la cause de la note qui va suivre. Mm-hmm. Donc on oublie l'instrument, on a l'impression qu'il y a une relation causale qui lie les notes les unes aux autres. Et ma question est, quand on joue un morceau comme vous le faites, est-ce qu'on a l'impression que les notes se causent elles-mêmes ou est-ce qu'on est toujours amené à l'instrument qui les produit ?
En tout cas, une note et une mélodie ne devient mélodie que parce qu'elle est une suite de notes. C'est, si on prenait une note séparément puis une autre note, ce ne serait pas une phrase musicale. Et c'est vrai que le tempo, c'est la même réponse, c'est-à-dire qu'un tempo, une pulsation ne devient pulsation que à partir d'un certain nombre de notes. Voilà. Et j'ai oublié votre question.
Je vais en poser une autre. Est-ce qu'un tempo, s'il n'est pas juste, peut aller jusqu'à trahir une œuvre ?
Ouais, je pense. Si c'est vraiment un tempo qui n'est pas du tout fidèle à l'idée du compositeur. Et alors, moi qui enseigne...
Si le compositeur a une mauvaise idée du tempo.
Alors oui, c'est aussi notre question. Dans ces cas-là, quand il est encore vivant, on peut en parler avec lui. Sinon, il y a évidemment des limites techniques à cette question. Donc parfois, un compositeur a des envies de virtuosité extrême, mais qui sont pas du tout réalisables. Donc là, pour que le morceau reste audible, il faut un petit peu descendre le tempo. C'est toujours un savant dosage, moi qui enseigne aussi beaucoup. Je me rends compte à quel point le choix du tempo est vraiment peut-être la première chose sur laquelle on peut s'arrêter et discuter avec l'étudiant. Et une fois qu'on a trouvé le bon tempo, c'est comme si la musique coulait d'elle-même. C'est comme si tout d'un coup il y avait une sorte de naturel, de naturel dans la phrase qui fait qu'on touchait peut-être l'idée du compositeur.
Geneviève Laurenceau, est-ce que vous m'autorisez à vous passer une commande ?
Oui.
J'aimerais que vous jouiez pour nous une pièce d'Astor Piazzolla.
Ah, c'est... D'accord, laquelle ?
Je vous laisse choisir. Oh,
c'est très généreux. Alors, je vais jouer l'étude Caprice numéro 3.
Installez-vous. Thank you. Merci. Restez là où vous êtes, le Geneviève Laurenceau. Le temps a passé trop vite. Vraiment, je vous remercie d'être venu et de vous être si gentiment et si brillamment prêté à cet exercice un peu délicat de jouer du violon comme ça en direct. Mais je crois que vous avez un petit cadeau de Noël pour nous tous. Et avant que vous le jouiez, je dois dire au revoir à nos auditeurs. C'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jacques Hubert et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Et nous allons écouter, pour terminer, en beauté cette émission, une pièce que Carole Beffa vient d'écrire pour vous, qui s'intitule « Variation sur « Il était un divin enfant ».